Alors, je voudrais évoquer avec vous la manière dont l'objet livre se métamorphose aujourd'hui sous l'influence des nouvelles technologies liées à Internet, le e-book par exemple, ou le print on demand. Et je voudrais que vous reveniez pour nous sur quelques-unes des métamorphoses, des mutations que le livre a connues depuis l'invention du codex.
Je crois que le premier problème, c'est qu'est-ce qu'un livre ? C'était une question posée Kant d'ailleurs dans la seconde partie de la métaphysique des mœurs, la science du droit, et il définissait très clairement ce qui peut faire entrer dans votre question, c'est-à-dire d'un côté un livre c'est un objet opus mechanicum produit par un travail de manufacture quel qu'il soit, la copie manuscrite ou l'impression ou éventuellement la production électronique, et qui appartient à celui qui l'acquiert. Mais en même temps, un livre pour nous, c'est une œuvre, c'est un discours. Kant disait un discours adressé au public, et qui est toujours la propriété de celui qui l'a composé, et qui ne peut être diffusé ou circulé qu'à travers le mandat qu'il donne à un libraire, éditeur, pour le mettre dans cette ère de la circulation publique. Et tous les problèmes de la réflexion d'aujourd'hui tiennent à cette relation complexe entre le livre comme objet matériel et le livre comme œuvre intellectuelle ou esthétique. Parce que jusqu'à aujourd'hui, toujours la relation s'est établie entre ces deux catégories, ou ces deux définitions du livre, entre, il y a d'un côté évidemment des œuvres qui ont une logique, une cohérence, une complétude, et d'autre part les formes matérielles de leur inscription, qui pouvaient être dans l'Antiquité jusqu'au 1er siècle de la chrétienne, le rouleau, et dans ce cas-là très souvent l'œuvre comme telle est disséminée entre plusieurs objets. Ou bien à partir de l'invention du codex, du livre tel que nous le connaissons encore, avec des cahiers, des feuillets, des pages, une situation inverse. C'est-à-dire qu'un même codex pouvait, et c'était même la règle pour les textes, que la plupart des textes à l'époque médiévale, pouvait contenir différents livres au sens d'œuvre. Et la nouveauté du présent, c'est évidemment que cette relation entre des classes d'objets et des types de discours se trouve brisée, puisqu'il y a comme une continuité textuelle qui est donnée à lire ou à composer sur l'écran, et que l'inscription matérielle sur cette surface illuminée ne correspond plus à des types d'objets qu'il apportait, les rouleaux de l'Antiquité, ou les codex manuscrits, ou le livre imprimé à partir de Gutenberg. Et c'est ce qui, je crois, crée à la fois des discussions qui peuvent avoir des aspects juridiques, comment on maintient les catégories de propriété sur une œuvre à l'intérieur ou à l'intérieur d'une technique qui ne fixe plus ou qui ne délimite plus l'œuvre comme le faisait l'objet, le rouleau ancien ou le codex, et peut avoir aussi des conséquences qui ne sont pas simplement sur un plan du droit ou de la propriété ou du copyright, mais des conséquences aussi sur la reconnaissance des statuts d'autorité scientifique des différents textes, puisque en particulier avec l'époque du codex et du codex imprimé, une hiérarchie des objets pouvait indiquer plus ou moins une hiérarchie des validités des discours. Et la différence immédiatement perceptible entre l'encyclopédie, le livre, le journal, la revue, l'affiche, la lettre, qui était matériellement donnée à lire, à voir, à manier, qui correspondait à des registres de discours qui s'inscrivaient dans cette pluralité de formes. Or, aujourd'hui, le seul objet, il y en a un sur ce bureau, est l'ordinateur qui porte tous les types de discours, quels qu'ils soient, et qui, d'autre part, rend extrêmement immédiate la continuité entre les lectures et l'écriture. Alors, je pense qu'on est là devant la manière d'entrer dans la réflexion du contemporain, mais en revenant à cette dualité que l'on oublie. Si je vous demande si vous avez lu le dernier livre de Umberto Eco, Je fais référence non pas nécessairement à une forme matérielle, à une édition spécifique, mais à une œuvre intellectuelle identifiée comme livre. Et à partir de là, le problème du livre électronique se trouve posé, puisque par la rematérialisation dans un ordre des objets qui n'est plus l'ordre, des objets correspondant au discours, mais qui est l'ordre d'un objet ou d'objets tels que le e-book ou comme ou l'ordinateur portable, qui est l'objet unique pour toutes les classes de texte, à partir de ce moment-là, on voit que la relation est posée dans des termes nouveaux.
Alors je voudrais revenir sur une notion que vous avez employée, qui m'a frappé, celle de palimpseste, en l'appliquant cette fois au monde de l'édition, qu'on appelle l'édition papier aujourd'hui. Alors, on pourrait reprendre une distinction que fait Michel de Certeau, qui consiste à faire la différence entre la trace écrite, qui est censée être fixe et durable, et d'autre part la lecture, qui est plutôt de l'ordre de l'éphémère. Bon. Mais ce qui est paradoxal, c'est que sur Internet, les textes ne cessent de muter, de se transformer. Bon. Est-ce que pour vous, c'est une rupture, ou est-ce que de toute façon, tout au long de l'histoire, et en particulier au siècle des Lumières, les textes écrits n'ont cessé d'être transformés, plagiés, réécrits?
Oui. La distinction de Certeau, évidemment, voulait opposer le lecteur voyageur qui construit de la signification, peut-être plus d'ailleurs qu'il ne le dit, à partir de contraintes, en même temps qu'elle la construit à partir de liberté.
Qui braconne.
Exactement. Et de l'autre côté, donc, si on braconne, c'est parce qu'il y a un territoire qui est théoriquement protégé, interdit et fixé. Et il comparait souvent donc l'écriture au labour et la lecture au voyage ou au braconnage. Effectivement, c'est une vision qui a pu inspirer les travaux sur l'histoire de la lecture, ou la sociologie, ou l'anthropologie de la lecture, à partir du moment où la lecture n'était plus enfermée dans le texte, mais était le produit d'une relation dynamique, dialectique entre un lecteur, ses horizons d'attente, ses compétences, ses intérêts d'une part, et d'autre part, le texte dont il s'empare. Cette distinction productrice pouvait aussi masquer effectivement deux éléments. L'un, on y reviendra peut-être, c'est que ce lecteur braconnier, il est lui-même assez strictement déterminé par déterminations collectives partagées par des communautés d'interprétation ou des communautés de lecture, et que donc cette liberté créatrice, cette consommation qui est production, avait ses propres limites, bornes et socialement différentielles. Et de l'autre côté, comme vous le dites, que ce terrain du texte est un terrain plus mobile que celui d'une parcelle d'un champ, dans la mesure où, effectivement, pour des multiples raisons, cette mobilité que vous évoquiez existait. Une première raison était que les conditions techniques de reproduction des textes, la copie manuscrite, unique manière de reproduire des textes jusqu'au milieu du XVe siècle, est ouverte à cette mobilité du texte, d'une copie à l'autre, puisque sauf pour des textes très fortement marqués de sacralité, où la lettre doit être respectée, tous les autres textes sont ouverts à ces interprétations, additions, mutations. Et à l'époque, la première époque de l'imprimerie, c'est-à-dire entre le milieu du XVe siècle et le début du XIXe siècle, pour des raisons multiples, les tirages sont toujours très restreints, entre 1000, 1250 ou 1500 exemplaires. Très rares sont les exceptions. Et à partir de ce moment-là, le succès d'une œuvre est assuré par la multiplicité des rééditions. Et chaque réédition est une réinterprétation, en un sens, du texte, soit dans sa lettre, modifiable, soit même dans ses dispositifs matériels de présentation, qui sont une autre forme de variation. À supposer même qu'un texte ne change pas d'une seule virgule, la modification de ses formes de publication, caractère typographique, présence ou non de l'image, division du texte, crée une mobilité dans les possibilités de l'appropriation. Et donc on a des raisons puissantes pour cette mobilité des textes. Vous en ajoutez d'autres qui sont intellectuelles ou esthétiques, c'est-à-dire le fait que durablement, peut-être jusqu'à une esthétique romantique ou pré-romantique, les histoires appartiennent à tout le monde. Et les textes s'écrivent à partir de formules déjà là. Et cette malléabilité des histoires, ou cette pluralité des ressources disponibles pour l'écriture, crée une autre forme de mouvement qui ne peut pas s'enfermer dans la lettre d'un texte qui serait stable à tout jamais. Et on pourrait même ajouter que le copyright ne fait que renforcer cette donnée. C'est paradoxal, puisque d'un côté, le copyright reconnaît que l'œuvre est toujours identique à elle-même. Mais qu'est-ce que protège le copyright ? D'abord, au XVIIIe ou XIXe siècle, toutes les formes possibles de publication imprimée du texte, et aujourd'hui, toutes les formes possibles de publication du texte, que ce soit une adaptation cinématographique, un programme de télévision ou de multiples éditions. On a donc un principe d'unité juridique qui renvoie à une unité auctoriale, mais qui couvre justement la pluralité indéfinie des états successifs ou bon, simultanés de l'œuvre. Alors, je pense qu'il faut restituer la mobilité du contemporain avec le texte électronique et ce texte palimpseste et polyphonique, dans une conception de plus longue durée sur des mobilités textuelles qui lui sont préalables. Ce qui reste de la question importante, à mon avis, c'est le fait qu'il y a des tentatives constantes pour réduire cette mobilité dans le monde électronique. C'est la condition de possibilité pour que des produits soient vendables, un opus mécanicum, comme on aurait dit Kant, et c'est la condition de possibilité pour que des noms propres soient reconnaissables à la fois comme créateurs et comme bénéficiaires de la dite création. Et de là, la contradiction, c'est une idée qu'avait développée Danton, très profonde, entre cette mobilité infinie de la communication électronique et peut-être cet effort pour enserrer le texte électronique lorsqu'il s'agit de publication électronique dans des catégories mentales ou intellectuelles, mais aussi dans des formes matérielles qui le fixent, qui le définissent et qui le transforment à nouveau en une parcelle que le lecteur va peut-être braconner, mais une parcelle qui serait suffisamment définie dans ses frontières, ses limites et ses contenus. Et je crois que là, on a ce grand défi qui est de savoir si le texte électronique peut être soumis à des concepts hérités et donc, du coup, doit être transformé dans sa matérialité même, en particulier avec cette fixité, les securities dont on parle dans l'anglais du monde électronique, ou si, inversement, les potentialités de cet anonymat, de cette multiplicité, de cette mobilité sans fin, vont dominer les usages et d'écriture et de lecture dans le monde numérique. Je crois que c'est là que se situe la discussion, les incertitudes, les vacillations contemporaines.
Alors pour terminer cet ensemble de questions sur les mutations de l'objet livre, je voudrais aussi vous interroger sur les mutations du lieu qui enferme historiquement cet objet, la bibliothèque. Mm-hmm. Donc dans son programme Google Books, Google a lancé un programme de numérisation de plusieurs dizaines de millions de livres, 15 millions actuellement je crois, à l'aide des volumes conservés par plusieurs dizaines de bibliothèques dans le monde entier. Ce programme fait des adeptes, a aussi ses contempteurs. Je voudrais vous demander simplement, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous pensez que le programme Google Books va permettre de créer une grande bibliothèque universelle, mondiale, accessible à tous, gratuite ?
Alors là encore, on retrouverait derrière ce projet des mythes ou des figures dans anciennes, en particulier une bibliothèque qui comprendrait tous les livres, qui était le projet des Ptolémées à Alexandrie. Et donc Google serait inscrit dans cette perspective de la bibliothèque qui contiendrait tous les livres déjà là, et avec celle de Borès, tous les livres que l'on pourra écrire. Alors, techniquement, il n'y a aucune raison de ne pas penser, enfin, je veux dire, techniquement et idéalement, que tous les livres existant sous une forme ou sous une autre ne pourrait pas être numérisé et donc entrer dans cette bibliothèque universelle. On voit qu'une des premières limites, c'est évidemment que le projet de Google est un projet qui est pris en charge par une entreprise capitaliste. Donc, on peut comprendre aussi pourquoi il y a des logiques économiques qui le gouvernent, même si elles ne sont pas immédiatement visibles, mais qui sont les logiques économiques qui peuvent gouverner ceux qui sont les annonceurs ou les supports de cette énorme firme. D'autre part, que c'est un projet qui, même s'il ne se prétend pas comme étant une bibliothèque universelle écrite en langue anglaise, comme disait un ex-gouverneur du Texas, si l'anglais était suffisant pour Jésus, il doit être suffisant pour les enfants du Texas. Donc elle avait lu que la Bible du roi James, et non pas peut-être des versions plus antérieures. Donc le projet ne se présente pas de cette façon, mais néanmoins, étant donné que les 5 premières bibliothèques qui avaient été choisies, qui étaient des bibliothèques 4 américaines et une anglaise, la dominante des fonds était nécessairement la dominante des fonds en langue anglaise. Alors de là, les réponses possibles, Jean-Noël Jeanneney avait proposé que les bibliothèques nationales européennes puissent s'organiser de façon à avoir un projet alternatif. Il était alternatif à la fois en termes de variété linguistique, et il était alternatif en fait qu'il était plutôt fondé sur la puissance publique et pas sur l'entreprise privée. Mais on peut supposer que par ces morceaux de bibliothèque universelle, on arriverait à une bibliothèque universelle, même si elle n'était pas unifiée dans, par un Ptolémée contemporain. Donc je pense qu'on n'a pas de raison de supposer qu'il ne pourrait pas arriver un moment où tous les livres qui sont présents dans des bibliothèques de papier et de murs pourraient être, il n'y a pas de raison de penser qu'ils ne pourraient pas être accessibles en une forme électronique. La question qui est posée à partir de là, elle était non seulement la question des langues ou la question de la responsabilité, elle était la question de est-ce que cette bibliothèque universelle, qui potentiellement ne nécessite plus aucun lieu, dans la mesure où ce qui la constitue, c'est le fait que chacun, face à un ordinateur où qu'il soit, peut appeler tel ou tel des titres, est la mort des bibliothèques telles que nous les connaissions, c'est-à-dire des bibliothèques, au moins dans une de leurs définitions, comme étant un lieu où des livres sont conservés, classés et consultables. Je crois que non. Je crois que la réponse doit être d'autant plus forte pour le maintien de cette définition traditionnelle que progresse le processus de numérisation. Parce qu'on revient toujours à un point qui pour moi est fondamental, c'est celui selon lequel, comme disait Don McKenzie, les formes affectent le sens. C'est-à-dire que le grand danger de ce projet de numérisation est de laisser penser qu'un texte est le même quelle que soit la forme de son support. Et qu'à partir de ce moment-là, aussi fondamental soit possible l'accès à des textes en une forme numérique, qui évite d'aller dans la bibliothèque, qui permet toute une série de lectures ou d'usages, ce qui se trouve néanmoins renforcé par cette numérisation, c'est le rôle de conservation patrimoniale des formes successives que les textes ont eues pour leurs lecteurs successifs. Et à partir de ce moment-là, la tâche de conservation, de catalogage et de consultation des textes dans les formes qui ont été les leurs et qui ont été celles de leur circulation devient une exigence absolument fondamentale qui renforce et non pas détruit la dimension patrimoniale et conservatoire des bibliothèques au moment où progresse la numérisation. Les démonstrations pourront en être multiples. Pensons au XIXe siècle, le roman lu dans de multiples formes matérielles, depuis les feuilletons hebdomadaires ou de quotidien dans les journaux, sous la forme de publications par livraison, sous la forme de livres pour les cabinets de lecture, sous la forme d'anthologies d'un seul auteur ou d'œuvres diverses, sous la forme d'œuvres complètes. Chaque forme de publication induit des possibilités d'appropriation, des types d'horizons d'attente, des relations temporelles avec le texte, avec le temps de la lecture, etc. Donc je pense que la nécessité de renforcer ce rôle de conservation et ce rôle de mise à disposition du patrimoine écrit dans toutes ses formes successives, et non seulement bon pour les érudits qui voudraient reconstruire des lectures anciennes ou reconstruire l'histoire des textes, mais il est fondamental pour la relation que les sociétés contemporaines entretiennent avec leur propre passé, c'est-à-dire ici avec les formes successives de la culture écrite dans leur propre passé. À partir de ce moment-là, je pense que la réponse à la question est que la bibliothèque comme lieu, comme institution, comme collection, trouve ses rôles renforcés à partir du moment où partie ou totalité de son patrimoine écrit serait transformée dans une forme numérique. Et je crois que la plus grande discussion autour des projets comme ceux de Google, imités ensuite par des bibliothèques, par des consortiums de bibliothèques nationales, se tient là. On avait pu voir comment certains des conservateurs de bibliothèques, lorsqu'ils ont appris l'existence du projet Google, en avaient conclu qu'ils allaient pouvoir vider les magasins, réaffecter les salles de lecture. Alors le danger n'existe pas pour les incunables, il y aura toujours un domaine réservé où des livres du 15e siècle ou des éditions du 18e siècle seront protégés, mais le problème déborde de beaucoup. On l'a vu par exemple avec la controverse féroce aux États-Unis sur les destructions des collections de journaux à partir du 19e siècle et du 20e siècle, à partir du moment où ils avaient été mis sur un substitut, en l'occurrence le microfilm. Mais le risque serait encore plus fort avec la numérisation. Et les bibliothèques ont vendu les collections, ou bien elles ont été détruites au cours du processus de microfilmage. Et un romancier américain, Nicholson Baker, avait écrit un livre pour dénoncer cette politique qui avait été celle de la Library of Congress, celle de la British Library, et d'ailleurs pour tenter lui-même de sauver ce patrimoine écrit, puisqu'il a constitué une sorte d'archive des collections de journaux quotidiens américains des années 1850 jusqu'à 1950. Et on voit très bien que la logique de lecture de ces journaux par un lecteur d'aujourd'hui face à leur forme numérisée et la lecture qui en était faite au Kansas ou dans le North Dakota à la fin du 19e à partir de la temporalité propre du journal et à partir de des dispositions des matières éditoriales sur la surface de la page et dans la totalité du numéro sont extrêmement différentes. Et que pour un historien ou pour un citoyen, il est absolument fondamental de maintenir ce rapport avec les héritages qui ont fait ce qu'il est. Et de là, je crois, la nécessité impérative pour les bibliothèques d'avoir conscience de cette double tâche, celle d'entrer avec toutes les précautions nécessaires dans le processus de la numérisation des collections, et celle de la protection, de l'accessibilité, et non pas de la relégation ou de la destruction, pire, du patrimoine écrit hérité.
Alors justement, je voudrais qu'on reparle des pratiques de lecture. Depuis l'invention de l'écriture, ces pratiques n'ont cessé de changer. On lit en famille, à la veillée, seul, silencieusement, etc. Mm-hmm. etc. Est-ce que vous pouvez revenir sur quelques-unes de ces formes de lecture, d'appréhension de l'écrit?
Il y a une double dimension, l'une qui serait morphologique et chronologique, et l'autre qui serait plus sociale. La morphologique et chronologique, pour mettre dans un autre ordre ce que vous avez dit, viserait à repérer des moments où massivement se transforment des conditions de possibilité de la lecture. On peut penser que dans un très long développement médiéval, les lecteurs de plus en plus nombreux ont pu lire comme nous lisons, c'est-à-dire silencieusement, et par les yeux, alors que la lecture oralisée était à la fois une forme normale de partage du texte entre les lettrés, mais aussi, durablement, une des conditions de compréhension du texte lu. Et les progrès de cette lecture silencieuse et visuelle, qui ont été portés et qui ont eu comme conséquence une nouvelle forme d'inscription des textes, en particulier l'introduction de la séparation entre les mots, ce qui n'existe pas dans la plupart des textes latins anciens, est une des grandes révolutions de la lecture. On a pu parler au XVIIIe siècle, même si c'est discuté, Danton n'aime pas beaucoup l'expression, de révolution de la lecture, au sens que là, d'une part, la multiplication des objets lus, puisque c'est le moment d'un premier première circulation importante des périodiques, de la multiplication des libelles, pamphlets, qui à côté d'un accroissement de la production livresque dans tous les pays européens, et d'autre part où la lecture s'est un peu écartée de la forme de respect, obéissance, sacralité qui la marquait encore fortement, pour devenir une lecture beaucoup plus désinvolte, critique, mobile. Donc on peut voir au XVIIIe siècle, et les contemporains d'ailleurs le traduisaient avec l'idée qu'il y a comme une fièvre de la lecture, une épidémie de lecture, une rage de lire, etc. On pourrait penser qu'un autre temps important pourrait être au XIXe siècle, c'est-à-dire au moment où se devient plus fort encore la tension entre des normes de lecture qui sont là imposées par l'école, et d'autre part, une prolifération sauvage des lectures qui sont plus amplement pratiquées par des milieux sociaux plus larges et qui sont nourries par cette multiplication au XIXe siècle des écrits que l'on peut rencontrer dans les villes, sur les murs, les affiches, les placards, la presse qui a changé de nature évidemment, surtout à partir de la seconde moitié du XIXe siècle avec la vente au numéro, les collections populaires, etc. Donc il y aurait des repérages possibles de transformations massives, les unes liées avec la morphologie de la lecture, lire silencieusement ou lire oralement, soit pour les autres, soit pour soi-même, d'autres qui seraient liées à la tension entre l'imposition de normes du bien lire et les pratiques quotidiennes, sauvages, multiples, ou d'autres encore qui seraient possiblement liées, comme au XVIIIe siècle, avec l'invasion de la lecture dans tous les temps ou tous les lieux de l'expérience sociale. Alors ça, ce serait une histoire possible, on a essayé d'en marquer les jalons, les historiens ont discuté de la validité de telle ou telle de ces ruptures, la validité de les qualifier comme révolution de la lecture. De l'autre côté, la pluralité que vous évoquez, elle n'est pas simplement une pluralité morphologique et chronologique, mais elle est à chaque moment, dans chacune de ces sociétés médiévales, des Lumières, du XIXe siècle, la différenciation de ce qu'on pourrait appeler des communautés d'interprétation ou des communautés de lecture qui sont organisées à partir des mêmes compétences, des mêmes attentes par rapport à l'écrit et des mêmes conventions de lecture. Et le repérage de ces communautés a pu aller dans le sens, par exemple, il y a un article fameux de Michel de Certeau sur les communautés mystiques espagnoles ou françaises de la fin du XVIe et début du XVIIe siècle, et qui sont unifiées par un rapport avec le livre, par des pratiques spécifiques de la lecture, par un détachement progressif de l'oraison, puis ensuite du converser avec Dieu par rapport au texte lu, ou bien on a pu essayer de repérer qu'est-ce qui pouvait caractériser des lectures entre guillemets populaires, c'est-à-dire des lectures par les milieux les moins bien alphabétisés ou qui se confrontaient avec des répertoires de textes plus restreints, la bibliothèque Bull en France, mais aussi les chapbooks en Angleterre, les pliegos sueltos en Castille, la Literatura de Bordeaux au Brésil. Bon. Donc il y a des efforts d'identification de cette pluralité qui là est directement enracinée dans la différence sociale et culturelle. Et je crois que la grille de lecture des lectures, ce serait de croiser cette dimension chronologique et morphologique avec un repérage des différenciations socioculturelles.
Enfin, il est vrai que aujourd'hui, par exemple, il arrive qu'on ne connaisse des livres qu'à travers ce que d'autres en ont dit, et je pense à un livre à la fois drôle et intelligent, Comment parler des livres que l'on n'a pas lu.
C'est un grand succès mondial, y compris aux États-Unis.
Mais je crois que ça délivre une vérité assez profonde. Bon. Et est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, on lit les livres ou on lit les dérivés de ces livres, c'est-à-dire ce que d'autres en ont dit, ou on voit les films qui en ont été adaptés?
Le problème, oui, certainement, la question est de savoir s'il y a une novation radicale autour de cette idée qu'on peut connaître des livres que l'on n'a pas lus. Et donc du coup, à travers différentes formes, qui sont des formes de médiation, soit les unes parce qu'elles donnent une autre modalité au texte, on peut parler ici des adaptations télévisuelles ou cinématographiques, ou bien parce que les discours sur les livres, depuis la critique où on pouvait lire plus qu'on ne lit actuellement dans les quotidiens jusqu'aux blogs électroniques, rend possible une connaissance médiate. Alors effectivement, je pense que cette connaissance médiate s'est renforcée avec le renforcement des lieux de la médiation. Cependant, on pourrait aussi dire que dès auparavant aussi, une telle forme existait. Je pense à deux exemples. Un exemple, Don Quichotte. Don Quichotte est sans doute, de ce point de vue-là, le premier texte qui fait entrer dans ce dont on a parlé comme une modernité de la lecture. D'abord parce qu'il a pour thème essentiel cette projection du texte sur le monde ou la présence du monde incorporée par le texte, mais aussi parce que très rapidement, de multiples lecteurs ont connu Don Quichotte sans l'avoir lu. C'est-à-dire la présence des personnages dans des fêtes de cour ou des fêtes carnavalesques, la circulation de représentations iconographiques, de scènes du roman, l'adaptation pour des représentations théâtrales font qu'il y a ou la lecture fragmentée du texte, rendu possible par sa structure en chapitres courts, dotés d'une certaine autonomie, font que très tôt circulent des références à Don Quichotte, supposées comme partagées, sans que pour autant on puisse en conclure que les lecteurs ont lu la totalité du texte, et encore moins la totalité des deux parties, lorsqu'en 1615 est publiée la seconde partie. Donc on a là une première matrice de ces formes d'accès à des textes par des médiations, qui sont soit des lectures fragmentées, soit des formes du texte dans le texte. Et c'est une histoire, à mon avis, très importante à suivre, comment des personnages ou des histoires sortent des pages pour devenir sur la scène, dans la fête, dans les discours, des réalités dépendantes et différentes de l'écriture. On pourrait penser aussi que la technique dominante de l'humanisme, c'est la technique des lieux communs, c'est-à-dire la capacité de réemployer des exemples, des sentences, des modèles qui sont extraits où ils étaient présents, dans la production de nouveaux discours. Et donc là aussi, une technique de lecture qui démembre les textes et qui parfois s'appuie sur des démembrements faits par d'autres, puisqu'on peut consulter des recueils de lieux communs et donc du coup trouver là des ressources rhétoriques et stylistiques pour ses propres productions. Donc la nouveauté n'est pas absolue dans cette idée qu'on peut connaître les textes sans les avoir lus, que la lecture de fragments se substitue souvent à la lecture de la de totalité, que ce qui dans les sociétés contemporaines a sûrement amplifié ce phénomène est les multiplicités d'adaptations visuelles au-delà des séries d'estampes ou de gravures, mais ici proposé par le cinéma, puis la télévision, qui ont rendu une familiarité avec des œuvres jamais lues. Donc je pense que c'est la modalité de cet impact qui a changé plus que l'idée qu'on aurait là quelque chose de radicalement nouveau avec les sociétés du XXe siècle.
Dans un article récent, et pour porter un jugement favorable mais critique sur la numérisation des livres, Robert Darnton écrit qu'il est important d'avoir la sensation physique du livre. Et il écrit qu'en particulier, les livres exhalent une odeur particulière.
Oui, oui.
Alors, permettez-moi pour conclure cet entretien, permettez-moi pour conclure cet entretien de vous poser une question personnelle. Quelle est votre manière à vous d'aimer les livres? Comment lisez-vous? Que lisez-vous?
Le moi est haïssable, dit quelqu'un d'une part, et d'autre part, je pense que c'est une question qui est un piège si on se pense à la référence que faisait souvent Bourdieu à l'illusion biographique. C'est-à-dire que ce type de question suppose qu'on fasse une réponse, mais même inconsciemment, dans lequel on construit une image de soi.
En tout cas, je n'ai pas voulu vous piéger.
Non, mais... Et donc, je pense que je crois que le plus important, finalement, il est que dans le... d'abord dans la première partie de l'observation, c'est-à-dire que Darnton, là, se fait l'écho, finalement, de son travail d'historien, et effectivement, au XVIIIe siècle, comme il le montre dans beaucoup de correspondances, beaucoup d'acheteurs de livres étaient intéressés par cette matérialité, la nature du papier, la correcte ancrage, tous ces éléments-là qui font la nostalgie de ceux qui pensent que le livre est déjà mort, qui font le plaisir d'un certain nombre de bibliophiles ou de lecteurs, pour moi, sont pas tellement à prendre dans cette dimension affective, ce monde des pages que nous aurions perdues, mais ils sont à prendre dans la dimension intellectuelle qui est que les formes d'inscription d'un texte délimitent ou imposent des possibilités de son appropriation. Ça commence par les appropriations au niveau le plus économique, puisque de ces formes matérielles dépendent des prix de vente des objets. Un livre de poche ne vaut pas le même prix qu'une édition reliée, et une édition de la Bibliothèque Bleue, à supposer que ce soit le même texte, n'était pas du même coût et des mêmes circulations que l'édition qu'on vendait chez le libraire de la rue Saint-Jacques. Donc ça définit déjà des conditions d'appropriation matérielle, économique, mais au-delà, ça définit des conditions de construction de la signification et qui se renvoie, comme on l'a montré souvent, au choix du format, au choix du caractère, à la division du texte, à la présence de l'illustration. Donc je crois qu'on peut convertir cette remarque qui était située sur un plan affectif du rapport d'intimité avec l'objet en un instrument de la connaissance. Pour l'autre question, je pense que la seule réponse est celle qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que je crois que tout le monde aujourd'hui développe cette pluralité de relations avec le texte lu au fil des préoccupations ou des occupations ou des activités ou des désirs de lecture sur la totalité d'une seule journée. Et de ce point de vue-là, nous lisons intensivement et extensivement, nous lisons des textes qui sont dignes d'être considérés comme des lectures légitimes et d'autres dont on les mettrait hors de ces catégories, ce qui d'ailleurs envoie un autre diagnostic qui est de dire on lit de moins en moins, mais c'est absolument faux. Jamais aucune société n'a lu autant. Il suffit d'aller dans n'importe quel... D'abord, jamais on n'a publié autant de livres, même si les tirages ont tendance à baisser. Jamais il y a eu autant de matériel écrit disponible à travers les kiosques, les marchands de journaux, et jamais on a lu autant du fait de la présence des écrans d'écrit. Donc il est tout à fait faux de prétendre que la lecture se réduit. En revanche, évidemment, ce qui est en jeu dans cette observation, c'est le fait que souvent, celui qui pose la question considère comme digne de lecture, et celui qui reçoit la question considère comme digne de lecture, est moins important, que ce soit en réalité ou dans l'imagination, soit l'imagination d'un passé, d'un âge d'or de la lecture, soit l'imagination d'une valorisation de la lecture. Christian Baudelot avait publié un livre dont le titre était « Et pourtant ils lisent ». C'est-à-dire qu'il marquait un contraste tout à fait fort entre les déclarations ou les discours des adolescents, en particulier des garçons, qui ne voulaient en aucune manière donner une image d'eux-mêmes comme lecteurs, parce qu'elle était connotée sans doute avec la pesanteur scolaire, des attitudes convenues, une culture que l'on refuse. Et pourtant, ils lisent, c'était le titre du livre, c'est-à-dire qu'à l'école, ils lisent, devant l'écran, ils lisent, et de multiples matériaux sont lus par ceux qui déclarent ne jamais lire. On retrouvait là la même type d'analyse qu'avaient montré des historiennes utilisant des interviews avec des lecteurs nés au début du siècle et dans des milieux populaires, en particulier des milieux ruraux. Et quant à la question « est-ce que vous lisez ?», non. Et on s'apercevait que cette question, la réponse « non » était directement liée à la conception que ces lecteurs qui, de fait, avaient des matériaux de lecture chez eux, multiples, étaient liés avec ce qu'ils pensaient ou ce qu'elles pensaient comme étant une lecture légitime pour celui ou celle, l'ethnologue, qui posait la question. Et donc on voit que les tensions entre les discours sur la lecture, qui toujours se réfère sans doute à partir du XIXe siècle à une norme de légitimité ou scolaire et culturelle, et les pratiques infinies, multiples, disséminées, qui s'emparent tout au long d'une existence ou d'une journée d'existence de multiples matériaux imprimés et écrits et qui sont donc l'objet de lecture, est une question tout à fait fondamentale. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, personne n'est exempt des pièges, non pas malins, qui sont lancés par les intervieweurs ou dans la conversation, mais qui sont des pièges qui sont pratiquement implicites dans toute forme de discours sur la lecture. Et entre cette définition d'une légitimité de ce que l'on considère comme lecture et d'autre part une infinie quantité de pratiques indignes, sans qualité, mais qui pour autant sont effectivement des pratiques de lecture. Alors l'articulation entre les deux est peut-être le défi des sociétés contemporaines, c'est-à-dire de quels sont les points où pourrait se rencontre cette multiplicité de pratiques disséminées avec l'appropriation de textes qui, pour des raisons différentes, peuvent être considérées comme construisant des instruments de déchiffrement du monde, des instruments de compréhension de la société, ou comme des miroirs qui permettent aux individus de se mieux connaître ou de mieux connaître les autres. Ça, c'est tout à fait un défi, qui est celui des médias, qui est celui de l'école, qui est celui sans doute des bibliothèques. Et loin de moi l'idée de penser qu'il y a une équivalence. C'est pas reconnaître la dissémination proliférante, mais pas reconnaître l'équivalence de tous les textes lus. Mais enfin, c'est un point de départ qui me paraît absolument nécessaire. Et je ne m'exempte pas, pour terminer avec un jeu que je n'aime pas employer, mais je ne m'exempte pas de cette tension-là entre les lectures pour le travail intellectuel ou pour le plaisir esthétique et ces infinies quantités de micro-lectures que l'on fait au fil de la journée, depuis non seulement celle de la presse, mais maintenant celle des sites. Voilà la réponse où, me semble-t-il, le cas de l'individu peut permettre, pour qu'il soit intéressant, finalement, une réflexion sur des pratiques de connaissance, qui est quand même ce qui est l'objet qui nous réunit ici et aujourd'hui.
Merci.